Quelquefois, on entend dire « dans la vie, il faut choisir » et personne proteste ou soulève une objection parce que cette affirmation est une « la palissade ». Ce qui est vrai pour les grands carrefours de la vie l'est aussi dans le domaine de la foi. Si je choisis de croire en Dieu, je dois aller jusqu'au bout de ma décision et la transformer en une conviction qui aura des répercussions sur ma façon de vivre. Je continue à lire dans le premier chapitre de la seconde épître de Pierre. « Dieu a voulu que vous participiez à la nature divine, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. » Verset 4. Le mot pour « corruption » décrit un fruit en train de pourrir ou de la viande en décomposition, ainsi que la puanteur qui accompagne la putréfaction. Après avoir considéré l'aspect marqué positif de la situation du croyant, c'est-à-dire sa participation à la nature divine, Pierre en tire les conséquences. Il rappelle à ses lecteurs que leur position en Jésus-Christ sous-entend leur abandon de tout ce qui concerne la mondanité et ses multiples formes de corruption qui ont pour cause les convoitises, les passions, les ambitions, l'amour de l'argent, la recherche du pouvoir, le désir de s'affirmer, la volupté et j'en passe. L'apôtre Jean écrit « Tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Cela dit, il faut bien faire la différence entre corruption et pollution. Les gens religieux se soumettent à un programme anti-pollution le dimanche ou un autre jour de la semaine, avec quelques rites par-ci par-là, un petit lavage sacerdotal, un peu de ceci, un peu de cela, et ils s'en vont heureux. Mais on peut être religieux jusqu'au bout des ongles et être corrompu jusqu'à la moelle. La seule façon d'échapper à la corruption du monde et de son propre cœur est de recevoir une nature régénérée en passant par la nouvelle naissance. Je continue le texte. « Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère, la connaissance. » Verset 5. « Parce que Dieu nous accorde les plus grandes et les plus précieuses promesses et qu'il a voulu que nous participions à sa nature divine, et parce qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, les croyants doivent s'efforcer et tendre à vivre pour Jésus-Christ. » L'apôtre Paul exprime la même pensée en des termes similaires quand il écrit « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut en étant animés d'une crainte respectueuse pour Dieu, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son dessein bienveillant. » Fin de citation. La vie chrétienne est paradoxale. Bien qu'en la personne de Jésus-Christ, Dieu accorde aux croyants un salut parfait et complet, il exige leur contribution. Il veut qu'ils travaillent dur à prouver leur salut et à le mettre en valeur. Quand Pierre dit « faites tous vos efforts », le verbe pour « faites » n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Il signifie « apporter, procurer en plus », ce qui sous-entend que le croyant doit fournir un gros effort pour modeler son caractère en fonction des exhortations que Pierre va énoncer. Le mot pour « tous vos efforts » ajoute encore de l'eau au moulin et donc une pression supplémentaire. Il veut dire « diligence » et « zèle », empressement avec un sentiment d'urgence. La marche chrétienne n'est pas pour les pieds tendres et ce n'est pas un loisir qu'on pratique de temps en temps comme les habits du dimanche qu'on porte seulement à certaines occasions. Celui qui se dit croyant doit le manifester dans sa vie de tous les jours, à la maison, au travail, en salle de classe, sur le terrain de sport et dans tous les aspects de sa vie sociale. La vie chrétienne est à prendre très au sérieux, car Dieu est exigeant. Il faut vraiment tous les efforts et tout le zèle qu'un croyant peut réunir, ainsi que la puissance du Saint-Esprit, pour, d'une part, pouvoir se délester de toutes les formes de corruption possibles qui existent dans le monde et dans son propre cœur, et d'autre part, ajouter à sa foi les 7 vertus que Pierre propose. Au fil du temps, le croyant s'édifie et devient de plus en plus semblable à Jésus-Christ en participant toujours davantage à la nature divine. Pierre introduit cette liste de 7 attributs en disant « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi ». Le mot pour « ajouter » a donné « chorégraphie » en français et son origine est très intéressante. Il est dérivé d'un autre mot qui signifie « maître de chapelle, corège ou chef de chorale ». Dans la Grèce antique, une ville-état comme Athènes décidait la création d'une chorale afin d'agrémenter et enrichir une pièce de théâtre écrite par un maître pour accompagner une manifestation à caractère religieux. Cependant, c'était au directeur de la chorale, le maître de chapelle, de fournir à son groupe tout ce dont il avait besoin et donc de défrayer toutes les dépenses. À l'époque où Athènes était puissante, par amour pour leur ville, certains citoyens fortunés se chargeaient volontiers de rassembler, d'entretenir, de former et d'équiper les chorales. Ces mécènes portaient le nom de choregoi, qui est à la racine du mot « ajouter » qu'emploie Pierre. Or, ces choregoi n'étaient pas radins pour un sou et n'équipaient jamais la chorale dont ils avaient pris la charge d'une manière chiche. Au contraire, ils pourvoyaient généreusement tout ce qui était nécessaire pour une noble performance. C'est ainsi que le mot « choregoi » vint à désigner quelqu'un qui soutenait les autres en subvenant amplement à leurs besoins ou encore à équiper une armée en lui fournissant toute la logistique et l'intendance dont elle avait besoin. Ici, Pierre dit donc « Faites tous vos efforts pour équiper, garnir, enrichir votre âme » en lui fournissant toutes les vertus nécessaires à la vie chrétienne. Quand on va en forêt, on peut observer 2 phénomènes opposés qui ont lieu simultanément. Une partie de la végétation est vivante et en pleine croissance, et une autre est morte et en train de se décomposer. Le croyant devrait pouvoir se comparer à un arbre qui pousse, qui grandit, qui se développe et ne cesse jamais de produire des feuilles et surtout des fruits ou des fleurs. À ce sujet, Pierre conclut cet épître par une exhortation où il dit « Progressez ou croissez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. » À la foi que Dieu leur a donnée, les croyants doivent ajouter les vertus que Pierre va énoncer. La foi en Jésus-Christ est ce qui distingue ceux qui croient. Ils ont une confiance personnelle au Fils de Dieu en tant que Sauveur, ce qui sous-entend qu'ils ont pris conscience de leurs péchés, qu'ils ont été convaincus de leur culpabilité devant Dieu, qu'ils ont ressenti le besoin d'un avocat, un médiateur, qui ait le vouloir et le pouvoir de détourner la colère divine et de représenter le repentant devant la cour suprême de l'Éternel. Jésus est le seul être qui réponde à ces critères. Il a d'ailleurs dit « Nul ne vient au Père que par moi ». La foi qui ouvre la porte du royaume de Dieu est le fondement de toutes les autres caractéristiques de la vie chrétienne, et c'est aussi le point d'ancrage à partir duquel se déploie une chaîne constituée de 7 maillons, cette vertu chrétienne que couronne l'amour. Le premier maillon est la force de caractère ou l'excellence morale. Pierre a déjà cité cette qualité en l'appliquant à Jésus-Christ au début de ce chapitre, ainsi que dans sa première épître, où le mot grec est traduit différemment selon les versions. Dans le grec classique, ce mot signifiait l'héroïsme moral ou un geste de bravoure. Il vint à désigner la qualité la plus exceptionnelle que l'on puisse acquérir au cours d'une vie, ou bien une œuvre juste, une réalisation remarquable, ou encore l'accomplissement parfait d'une tâche ou d'un devoir. En second lieu, Pierre dit « Faites tous vos efforts pour ajouter à la force de caractère la connaissance ». Ce deuxième maillon de la chaîne de vertu n'est pas une connaissance intellectuelle, mais spirituelle. Il s'agit de la vérité divine qui provient du Saint-Esprit et qui est centrée sur la personne de Jésus et sur la parole de Dieu. Cette connaissance est liée à l'illumination spirituelle qui consiste à être éclairée avec justesse sur les vérités des Écritures. L'apôtre Paul écrit « Le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. » Fin de citation. Je continue le texte de Pierre. « Faites tous vos efforts pour ajouter à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance pleine d'espérance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu. » Verset 6. Le troisième maillon de la chaîne est la maîtrise de soi ou la tempérance. Le mot ainsi traduit n'est utilisé que deux autres fois dans le Nouveau Testament et signifie se garder intérieurement. Il décrit les athlètes qui étaient prêts à se priver de tout afin de se concentrer uniquement sur leur entraînement pour arriver à une maîtrise parfaite de leur corps. La maîtrise de soi était la vertu cardinale et le but ultime recherché par les stoïciens. Cependant, pour Pierre, elle ne consiste pas à s'endurcir face à la douleur, mais bien plutôt à dominer ses passions. L'apôtre établit ainsi un contraste saisissant avec les faux frères qu'il dénonce et dont le comportement était caractérisé par le plus grand laisser-aller et une absence totale de maîtrise de soi. Le quatrième maillon de la chaîne est l'endurance pleine d'espérance dans l'épreuve. Cette expression est un seul mot et signifie littéralement « demeurer sous ». Il est rare en grec classique, mais fréquent dans le Nouveau Testament, où il sert à décrire la constance dans l'adversité, même la plus insupportable. Comme son équivalent latin est « patienta », il est souvent rendu par « patience », mais cette traduction ne convient pas parce qu'elle exprime une certaine passivité stoïque, alors que cette quatrième vertu est dynamique et a le regard tourné vers l'avenir. Cette endurance est l'acceptation courageuse par le croyant de toutes les épreuves que la vie peut lui faire subir, tout en les considérant comme un autre pas à franchir vers le haut, vers la gloire. C'était l'état d'esprit de Jésus dont il est écrit « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. » Puis l'auteur de l'épître ajoute « Pensez à celui qui a enduré, supporté de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. » Dans ces deux versets, le mot traduit par « endurer » est « demeurer sous », je le rappelle, le quatrième maillon de la chaîne de Pierre. Nous arrivons à la cinquième vertu, quand Pierre dit « faites tous vos efforts pour ajouter à l'endurance l'attachement à Dieu », un mot souvent rendu par « piété ». La translittération grecque de ce mot a donné le prénom « Eusèbe ». Dans la pensée grecque, la piété décrit tous les rituels associés à l'adoration et à la loyauté rendue aux divinités païennes, ainsi que le respect envers tout ce qui est de l'ordre du divin. Les croyants du 1er siècle ont appliqué ce mot à l'Éternel, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Pour eux, il signifiait à la fois vénérer Dieu et lui obéir. Pierre l'a déjà utilisé et le mentionnera encore plus loin. Il est intéressant de noter que l'apôtre Paul n'emploie jamais « piété » dans ses épîtres aux églises, mais il l'utilise 10 fois dans ses lettres personnelles à Timothée et à Tite. Si l'apôtre insiste tant, c'est qu'il estime que pour quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, la plus grande priorité est d'être pieux, c'est-à-dire de mener une vie marquée par la communion avec Dieu et de l'adorer en vérité. Paul écrit à Timothée « L'attachement à Dieu est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir ». Il est bien dommage qu'au fil des siècles et dans l'esprit des gens, le mot « pieux » a été associé aux formes extérieures du culte et a pris une connotation négative. Je continue le texte de Pierre. « Faites tous vos efforts pour ajouter à cet attachement à Dieu l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. » Verset 7. Le mot pour affection fraternelle a donné Philadelphia, le nom d'une des grandes villes des États-Unis. Celui qui adore et révère Dieu éprouve spontanément de l'affection pour ses frères dans la foi. Comme la communauté chrétienne est une fratrie, elle doit manifester des relations de type familial où chacun fait preuve d'un dévouement sincère envers les autres. Dans sa première épître, Pierre a déjà dit à ses lecteurs « Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur ». Le croyant est appelé à aimer sans mesure et sans compter ceux qui sont ses frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Jean écrit « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas ». D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Fin de citation. Nous arrivons au dernier maillon de cette chaîne qui s'arrête sur la marque par excellence du disciple du Christ. L'amour est le reflet d'un attribut divin et caractérise tout l'enseignement évangélique. Un jour, un chef religieux a demandé au Christ quel était le plus grand des commandements de toute la loi de Moïse. Jésus lui a répondu « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important, et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Fin de citation. Le croyant doit non seulement aimer ceux qui ont la même foi que lui, mais aussi les autres, son prochain, les pécheurs et ses ennemis. Il est le représentant sur terre du Dieu qui aime l'homme d'un amour sacrificiel. L'apôtre Jean écrit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. » Certes, Dieu aime le pécheur, mais il le jugera à moins qu'il ne cherche refuge auprès de Jésus-Christ. Avec cette chaîne de vertus, Pierre prend à contre-pied l'enseignement pervers des imposteurs religieux qui prônaient une forme de liberté faite de dépravation sortie directement des antres de l'enfer. Contrairement aux mensonges qu'il répandait, il existe un lien indissociable entre la connaissance et le comportement moral du croyant. Les qualités remarquables que Pierre a citées ne sont évidemment pas un moyen d'obtenir la vie éternelle par des mérites humains, mais leur présence rend le croyant efficace et productif pour Dieu. Je continue le texte. Car si vous possédez ces qualités et qu'elles abondent en vous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. En choisissant les deux verbes « posséder » et « abonde », Pierre met l'accent sur la nécessité pour le croyant de mettre en pratique les qualités qu'il a énoncées. Le premier verbe exprime la possession d'une propriété qu'on habite et le second décrit un avoir surabondant, un surcroît. Celui qui cultive la connaissance personnelle et intime de Dieu développe ses qualités. Comme elles sont dynamiques, elles conduisent à une connaissance plus approfondie du Christ. Mais ceux qui ne font pas de progrès dans les sept domaines cités par Pierre sont oisifs et stériles. L'adjectif « oisif » veut dire inactif, inefficace, inutile, inopérant, fainéant. Le mot pour « stérile » signifie « infructueux ». Il s'emploie parfois en relation avec l'incrédulité ou l'apostasie. C'est ainsi que l'apôtre Paul met en garde ses lecteurs contre les œuvres infructueuses des ténèbres. Et Jude compare les faux docteurs à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont deux fois morts, déracinés. Dans la parabole du semeur, Jésus utilise le mot « stérile » pour décrire ceux qui reçoivent la semence parmi les ronces, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. La présence à un stade développé des sept qualités mentionnées par Pierre est une marque de la croissance du croyant dans la grâce de Dieu, mais si elles sont absentes, il est comme un sarment qui ne porte pas de fruits. On le coupe, on le jette hors du vignoble et il sèche.